Dans un arrêté publié la semaine dernière, le ministre de la Communication et des Médias a pris des mesures pour réguler le secteur des médias en ligne. Lambert Mende indique notamment que sont interdites à travers les médias en ligne l'apologie ou l'incitation au crime, à la violence et à la xénophobie. Il ajoute qu'aucune publication d'information générale ou spécialisée en ligne ne peut comporter une illustration ou une information qui porte atteinte au droit à l'image et au droit à la vie privée. Une décision rejetée par l'Association des médias en ligne congolais qui la juge liberticide. Quelle analyse faire de cette mesure du ministre de la Communication et des Médias? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Joseph Boukar Kasonga-Chilunde. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'Union nationale de la presse de la RDC, UNPC en sigle. Kodjo Ndoukouma, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en droit du numérique de la Sorbonne, professeur de droit du commerce électronique. Alkitenge, bonsoir, il est en ligne? Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est stratège et analyste économique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans le sommaire, le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, a publié jeudi 14 juin dernier un arrêté soumettant les médias en ligne à des nouvelles règles. Mimi Ngumba Mulongo nous en donne plus de détails.
L'arrêté du ministre Mende, qui s'appuie entre autres sur les décrets de loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC, vise à réguler les médias en ligne. Dans son tout premier article, il informe de l'ouverture d'un registre de déclaration préalable à l'exploitation de médias en ligne. Le même document prévient que toute publicité doit passer avant sa diffusion auprès des institutions du secteur public chargées du contrôle de la publicité. Cet arrêté interdit toute apologie du crime, l'incitation à la violence, à la dépravation de mœurs, à la xénophobie, à la haine tribale, ainsi qu'à toute forme de discrimination. Aussi, aucune publication de médias en ligne ne peut comporter une information qui porte atteinte au droit à l'image et au droit à la vie privée, martèle le document. Enfin, le ministre de la Communication accorde un délai de 30 jours aux médias en ligne existants dès l'entrée en vigueur de cet arrêté pour se mettre en ordre. Tout ce qu'on sait du côté de médias en ligne, c'est qu'ils désapprouvent cette démarche du ministre de la Communication. Une position officielle de ces derniers est attendue dans les tout prochains jours, en attendant une concertation entre le membre que compose l'Association de médias en ligne congolais.
Merci Mimi Ngumba Mulongo. Notez que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministre de la Communication et des Médias sont restés vains. Joseph Boukar Kasonga-Chilunde, président de l'Union nationale de la presse de la RDC, une UNPC en sigle. Comment avez-vous reçu ces nouvelles mesures?
Merci. Personnellement, je peux vous dire que honnêtement, je n'étais pas à Kinshasa quand la mesure ou le décret ou l'arrêté a été signé. Et c'est en somme aujourd'hui que j'ai pris connaissance de cet arrêté. Aujourd'hui, avant de venir ici. Et je sais aussi que demain, nous avons une concertation entre les responsables des médias en ligne et puis l'UNPC, GED, pour que nous puissions voir analyser l'arrêté et puis voir s'il y a des recommandations, des propositions que nous devons faire par rapport à cela. Mais je peux déjà dire que c'est compliqué, ce décret pour cet arrêté, pour la simple raison que, d'abord, quand vous prenez dans les, comment on appelle, exposé de motifs, le 96-002, ce n'est pas un décret, mais c'est une loi qui est passée par le Parlement et qui a été promulguée par le président de la République. Mais le fait de dire d'une loi que c'était un décret, je ne sais pas si ça a un impact sur le plan juridique. De deux, j'apprécie aussi que dans cet arrêté, il y a pratiquement tout ce qui est dans le cadre de l'autorégulation se trouve dedans. Par exemple, éviter l'apologie du crime, de la haine et tout ça, ça se trouve déjà dans le code de déontologie. Donc c'est déjà d'application. Et puis, quand le ministre fait recours ou s'appuie sur le décret ou sur la loi de 96-002 du 22 juin 1996, je ne sais pas comment les juristes peuvent analyser ça, pour la simple raison que à cette date-là, il n'existait pas encore les médias en ligne. Tout comme il n'existait pas encore les radios communautaires.
Donc c'est purement anachronique.
Bon, il faut que les juristes nous trouvent les mots qu'il faut. Mais je me dis que ça n'existait pas encore. Et quand vous prenez même la loi là, elle vous parle précisément de la presse écrite et puis de l'audiovisuel. Mais nulle part on parle de médias en ligne, nulle part on parle de radios communautaires. C'est face à cette réalité qu'à notre niveau, nous avons initié un projet de loi modifiant et complétant celle de 80, la loi de 96, où nous intégrons les médias en ligne, les radios communautaires, pour être à la page. Mais jusqu'à ce jour, ça fait 3 ans que ce projet de loi est bloqué au niveau de l'Assemblée nationale pour des raisons que nous ignorons.
Alors, Joseph Boukar Kassongachilundé, ne faudrait-il pas d'emblée aussi souligner ce souci du ministre de la Communication et des Médias de réguler ce secteur des médias en ligne où il y a quand même beaucoup d'abus aussi?
Non, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire la différence entre les médias en ligne et les réseaux sociaux. Ça fait 2 choses différentes.
Et ça ne transparaît pas clairement dans l'arrêté.
Mais dans l'arrêté, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore bien intériorisé, mais ça ne transparaît pas clairement. D'autant plus que les médias en ligne sont bien structurés. Et ensuite, comment va-t-on réguler ces médias? Parce qu'il y a des médias en ligne qui sont, publiés à l'extérieur du pays. Comment on va les réguler? Parce que la loi ou l'arrêté tel que le ministre l'a pris ne concerne que les médias en ligne dont les responsables sont à Kinshasa. Or, aujourd'hui, tel que nous avons la configuration du numérique, on peut être, je ne sais pas dans quel monde, en Chine et tout ça, et vous faites votre média en ligne. Vous recueillez les informations sur la RDC, et vous pouvez, un Congolais qui est là-bas, la plupart des Congolais qui sont à l'étranger, ils ont aussi des médias en ligne. Mais c'est difficile que ils obéissent ou ils respectent l'arrêté du ministre.
Est-ce que ce n'est pas un peu aller vite en besogne pour l'association des médias en ligne de déclarer que cet arrêté est liberticide?
Non, liberticide, je ne peux pas le dire parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois, je n'ai pas encore maîtrisé cet arrêté parce que je n'ai pas eu le temps de le lire. Mais ce qui est évident, c'est que moi, je me dis que le ministre aurait pu attendre que l'Assemblée adopte le projet de loi modifiant celle sur les modalités de l'exercice de la liberté de la presse qui intègre les médias en ligne et les radios communautaires. À partir de ce moment-là, il allait se baser sur ça pour réglementer, parce que c'est dans ses prérogatives de réglementer les médias dans notre pays, mais pour les médias en ligne qui n'ont pas existé, et se référer à une loi qui n'a pas été faite en fonction de ça, je pense que je ne sais pas comment on peut appeler ça.
Voilà, nous avons un juriste dans ce studio, lui c'est Kodion Dukuma, il est docteur en droit du numérique de la Sorbonne, il est professeur de droit du commerce électronique. Comment vous avez accueilli cet arrêté du ministre Mende?
Bon, déjà, je salue la pertinence des propos du président de l'UNPC pour dire qu'évidemment, il y a un enjeu de législation ou du moins un enjeu de réglementation. La RDC, c'est 13 millions d'internautes mobiles fin 2017. Et quand on regarde le statistique d'avril 2018 sur le paysage digital de la RDC, on se rend compte que 72% des personnes s'informent à la radio, 48% à la télévision et 24% des gens sur Internet, 9% sur les chaînes câblées et 1% sur la presse écrite. Bon, ce sont des recherches d'un groupe de travail qui s'appelle Target. Et donc, il est quand même nécessaire de pouvoir réglementer cette activité de cyberjournalisme ou de presse en ligne ou de communication web 2.0. Mais maintenant, comment on procède? On essaye de faire du nouveau avec de l'ancien ou de l'ancien avec du nouveau. Ce que l'arrêté a fait, c'est une extension de régime réglementaire. Parce que quand vous lisez l'article 8, et le président a raison, l'article 8 de la loi 96-002, on dit que la presse, c'est quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes mœurs. Bien sûr, la liberté d'opinion, c'est l'article 24, la liberté d'information et d'opinion, c'est l'article 24 de la Constitution. Mais ça s'organise dans le cadre de cette loi. Et cette loi a prévu effectivement la communication audiovisuelle et la communication par la presse écrite. Maintenant, vous avez des services. Vous avez des services de radiodiffusion sonore et des services de télévision. Alors, l'arrêté, quand il est pris, il renvoie les opérateurs, disons ça comme ça, de médias en ligne, les services de médias en ligne, il les renvoie au régime prévu pour la radiodiffusion sonore et la télévision. Est-ce que c'est la même chose ? Non, ce n'est pas la même chose. Donc, mais ce qui est fait, l'effort de réglementation qui est fait est important parce que il y a quand même un contenu éditorial qui est diffusé sur un support. En France, on assimile aujourd'hui, pour l'aspect régulation par le CSA, les médias en ligne avec la communication audiovisuelle. Mais on doit revenir à la loi qui donne une définition assez stricte et restrictive de ce qu'on entend par communication audiovisuelle. Et donc, quelque part, ce décret a fait, on peut le dire, une interprétation téléologique de la loi, parce que la loi n'avait pas prévu en ce moment-là l'Internet, même si l'article 8 de la loi de 96 dit que c'est sur tout support utilisé, mais il y a un régime spécifique pour la radiodiffusion sonore et télévision. Lorsque, par exemple, l'arrêté dit que, à l'article 3, la déclaration préalable dont l'imprimé est annexé au présent arrêté doit être conforme à l'article 57 de la loi 96-002 du 22 juin pour les services de médias en ligne. Mais quand vous regardez les conditions, on dit que il faut, dans la loi, il faut une licence de détention, installation et exploitation délivrée par le ministère des PTT. Oui, ça vaut pour les gens qui ont une chaîne de télé. Ils doivent d'abord aller au PTT pour les contenants, les fréquences, et ensuite pouvoir faire du contenu. Mais par contre, pour ceux qui sont sur Internet, ils sont en fait pas propriétaires d'Internet.
Alors, professeur, est-ce que cette mesure est opportune?
La mesure, elle est opportune. Il faut qu'il y ait une réglementation quelque part. Ça veut dire, comme à l'étranger, nous avons déjà des législations depuis 2004, la loi pour la confiance en l'économie numérique en France, dans 2004. Mais simplement, il faut savoir qu'est-ce que nous sommes en train de réglementer ou de réguler. La plupart des pratiques sur Internet sont des pratiques autorégulées. Ça veut dire que la profession déjà de journaliste, c'est une profession réglementée et c'est une corporation. Et il y a déjà un certain nombre d'obligations qui sont prises en compte. Alors, l'arrêté apporte quoi de nouveau ? L'arrêté apporte simplement ce qu'on appelle des dispositions, la loi de police. Ça veut dire que on doit respecter l'ordre public et on doit faire un enregistrement préalable, une déclaration préalable pour être contrôlé. En plus, l'arrêté quand même a l'avantage d'avoir fait une différence entre la communication informative et la communication commerciale qui est la publicité. Parce qu'il faut se le dire que toute la publicité qui passe avec l'information sur les médias en ligne n'est pas toujours répertoriée comme telle pour pouvoir entraîner les conséquences fiscales ou juridiques qui s'imposent.
Merci professeur, je reviens à vous tout à l'heure. Cette émission est aussi pédagogique, vous le savez. Alki Tengue, vous êtes stratège et analyste économique. Merci d'être venu, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Alors vous avez suivi le président Kasunga Chilunde de l'UNPC, le professeur Kojo Ndukuma. Quelle est votre analyse par rapport à cet arrêté en ce qui concerne les médias en ligne?
Je crois que cet arrêté pose deux, trois questions qu'il faut intérioriser. La première, c'est le timing. Aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises au sujet d'Internet ont une connotation largement politique. Ça dénote d'une certaine panique liée aux enjeux politiques du moment, et c'est dramatique. Le deuxième aspect, c'est les compétences de l'État lui-même vis-à-vis de la question du numérique. L'État n'a aucun agenda. L'État n'a pas développé des aptitudes à pouvoir, ne serait-ce que interférer sur Internet. Et ça, malheureusement, ça le met en situation de nain en termes d'activité et ça lui fait perdre confiance en lui-même et il pose des actes de précipitation. Et le troisième aspect, c'est aujourd'hui de dire la territorialité de l'Internet aujourd'hui est d'une limite qui n'existe que dans la tête des gens. Et donc, il faut faire très attention sur l'efficacité des mesures que nous prenons lorsqu'il s'agit de l'Internet et éventuellement de toute l'activité sur le net. On a deux exemples dans le monde. Le premier, c'est celui dont a parlé Ndoukouma tout à l'heure, c'est le milieu européen, en l'occurrence la France et d'autres pays. Ça veut dire qu'en fait, il y a un minimum de réglementation qui tient absolument à l'éthique. Et ça, c'est très important parce que dans un espace de liberté, le respect des uns et des autres est obligatoire, le respect des lois est obligatoire. On s'assure que tout le monde respecte les règles. Deuxième chose, le deuxième modèle, c'est le modèle chinois, où il y a une police ardente qui réglemente ce qui peut ou ne pas passer, et ils sont technologiquement suffisamment pointus pour être en mesure d'assurer, et d'ailleurs malheureusement, même malgré leur technicité, on arrive toujours à les contourner, ils ont presque Internet dans Internet. Et je crois que le Congo n'est ni dans l'un ni dans l'autre cas, et il est important que nous apprenions d'abord à nous approprier cet outil, et je pense que l'État a tort de ne pas s'intéresser au numérique. À partir de ce moment-là, il pourra être un véritable acteur et il pourra légiférer intelligemment.
Moïse Mukendi Kapangadi, s'ils commençaient eux-mêmes par respecter les droits humains, les lois du pays, à libérer l'espace politique, cesser d'utiliser l'armée et les services secrets en lieu et place des lois et à favoriser, protéger les vertus démocratiques, nous respecterons la décision du ministre. Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est notre seul moyen de nous exprimer librement.
C'est ce que je disais tout à l'heure, le timing est éminemment politique. Les tensions sont très élevées. La confiscation des médias d'État en grande partie justifie que les gens aient une activité des fois débordante sur les seuls médias qui leur restent. Et je crois qu'on résout le mauvais problème. Je pense que la question, et c'est l'intervention de notre compatriote, c'est de dire il faut résoudre les vrais problèmes. Et je pense que les espaces de communication et d'échange sont des espaces de société, sont des espaces de vie. Je dis toujours une chose à mes amis qui sont en politique. Je dis, quand vous êtes au pouvoir, il faut vous préparer à être à l'opposition demain. Et donc, il faut être en mesure de mettre en place un mécanisme général qui vous permet de vivre d'un côté ou de l'autre.
Alors, par rapport à leurs craintes, les médias en ligne disent notamment, ce qui concerne la publicité, qu'il est difficile d'appliquer ce que le ministre demande. Ils estiment risquer pour des médias déjà fragiles, ces derniers faisant souvent appel à des régies publicitaires dont ils ne maîtrisent pas forcément les contenus.
Il pose une question simple qui est celle de la fiscalité en ligne. L'État congolais n'est pas en ligne. Il se passe énormément de commerce en ligne, et l'État congolais n'a aucun mécanisme pour être en mesure de le contrôler. Ce serait discriminatoire de vouloir apposer une vigilance excessive seulement sur les questions des médias en ligne. Je pense qu'il faut résoudre le problème réel, il faut le résoudre de manière globale et personne ne va se plaindre.
Alors, le président Kasonga Chilunde a évoqué notamment la différence entre les médias en ligne et les réseaux sociaux. Et ça se pose aussi dans l'arrêté.
Non, en fait, il faut se rendre compte que les médias en ligne peuvent être sur les réseaux sociaux. Et donc, l'un est un support de l'autre. Et on peut être média et ne même pas être dans les réseaux sociaux et être un média en ligne. Ça veut dire qu'on est simplement sur Internet. Et je pense qu'il faut mettre toutes ces susceptibilités en face des gens et surtout dire que il n'y a rien qui vaut la liberté. La liberté fait l'homme, la liberté fait la société, la liberté fait la pluralité. Et il ne faut pas essayer de la contenir, il faut la réglementer.
Un autre aspect, les médias en ligne disent que cet arrêté n'a pour objectif que de traquer les journalistes blogueurs ou actifs sur les réseaux sociaux.
C'est une bataille perdue d'avance. Comme je disais tout à l'heure, l'arsenal technique et technologique de l'État est très faible. L'État va être dispersé et ne saura pas être efficace. Et je crois aussi que la bataille est de mauvais augure parce que il sera très difficile, je disais tout à l'heure, pour des raisons de territorialité, de poursuivre les gens parce qu'en fait, il suffira simplement de prêter ces articles à d'autres personnes, ils passeront dans les médias.
Alors, qu'est-ce qui pourrait alors, selon vous, justifier ce qu'on peut qualifier presque de précipitation dans la rédaction d'une telle décision?
Je ne voudrais pas porter jugement sur la démarche de l'État, mais je pense simplement qu'il est bon pour le gouvernement de prendre des décisions opportunes, de les prendre au bon moment pour que nous ayons des effets voulus. À côté de ça, vous savez, la force d'une disposition légale ou réglementaire, c'est la sincérité. Il est important que l'agenda dans le texte soit un agenda connu, défendable et qui n'est pas limité dans le temps, qu'il soit durablement intelligent. Ça veut dire qu'en fait, il se justifie aujourd'hui, demain et dans un temps assez long. Sinon, il contredit les personnes qui prennent ses propres mesures et à un moment donné, ça pose un véritable problème d'homme d'État et d'homme politique.
Joseph Boukar Kasongachilonde, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
C'est Paulin Senga Ngabo depuis Kisangani. L'arrêté du ministre des médias est salutaire car la majorité des médias en ligne ne respecte plus leur déontologie professionnelle. Il se base plus aux informations qui parlent plus de la négativité des régimes en place. Bien sûr, le droit d'expression est garanti. Sachez bien que le droit de suspendre ces médias en ligne est aussi garanti. Tant à fait. Donc, le ministre des médias a tout simplement répondu à ses droits, à ses attributions.
Président Kasonga Chilonde.
Oui, merci Paul Senga. Mais vous êtes à côté, tout simplement parce que Al vient de le dire tout à l'heure, il se pose un problème de territorialité. Et la plupart des médias en ligne ne sont pas basés ici à Kinshasa. Ils sont véhiculés à partir de l'extérieur. À partir de ce moment-là, il va se poser un problème de la manière de sanctionner ces médias-là. Parce que, tel qu'il le dit là-bas, c'est quand un journaliste en ligne critique par exemple le gouvernement ou viole la déontologie, qu'il soit sanctionné. Mais si ceux qui sont ici, qui sont identifiés, peuvent l'être, mais il serait difficile de le faire avec ceux qui sont à l'extérieur et qu'on ne sait pas avoir sous la main. Et aujourd'hui, je ne sais pas si le gouvernement a le mécanisme de dire par exemple que ce média a commis une telle faute professionnelle et qu'il faut le sanctionner. Mais on va le sanctionner en faisant comment? En le suspendant, en demandant à son hébergeur de couper les ponts. Donc, le problème se pose à ce niveau-là.
Et donc, l'arrêté qui soumet ces médias à un régime d'autorisation préalable, en demandant aussi à tous les médias déjà existants, en leur disant qu'ils ont 30 jours pour s'y conformer, et donc c'est nul et de nul effet.
Non, c'est-à-dire que moi, peut-être que le gouvernement, le ministre a mis sur pied des mécanismes susceptibles de l'aider.
Des moyens techniques.
Des moyens techniques susceptibles de l'aider à réussir son arrêté. Mais quand moi je vois le contexte général, je ne vois pas comment cela pourrait-il être possible. Je ne vois pas.
Et alors, quand Al-Kitenge évoque la fiscalité en ligne que l'État congolais n'est pas en mesure de percevoir, Kodjo Ndukuma parle d'une interprétation téléologique de la loi de 96, et donc quand on rassemble un peu tous ces éléments, on a l'impression que l'État se lance dans une bataille perdue d'avance. Pourquoi, à votre avis?
Mais justement parce que aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez les médias en ligne, la plupart des publicités qui sont sur les médias en ligne ne viennent pas d'ici. C'est Google, c'est les autres là qui placent la publicité. Et c'est de ça que les médias peuvent avoir quelque chose. Mais vous allez contrôler comment pour que Google, avant de placer la publicité, vienne la donner à un service ici pour contrôler, donner son avis favorable avant que cette publicité-là soit placée dans le média. C'est difficile, c'est compliqué.
Et donc, ça démontre quand même une méconnaissance du secteur qu'on voudrait réguler.
Je dirais oui, parce que le ministre aurait dû s'entourer de toutes les garanties utiles. C'est-à-dire, il aurait dû convoquer une réunion avec tous ceux qui œuvrent dans le secteur, poser des questions, et on allait lui répondre. À partir de ce moment-là, il aurait fait œuvre utile. Mais il l'a fait avec son cabinet. Ça va poser maintenant le problème de l'application de l'arrêté sur le terrain. Et particulièrement en ce qui concerne la publicité à laquelle il a fait allusion, par exemple.
Mbouli Patrick de Lubumbashi dit « C'est bien beau de réglementer ce secteur dont certains médias en ligne ne tenaient pas compte de certaines sensibilités, mais cet arrêté tombe à un mauvais moment qui risque de laisser la place à toute forme d'interprétation où d'un côté la loi sur les manifestations publiques n'a pas été votée au niveau de l'Assemblée nationale et de l'autre côté on accuse les médias en ligne de faire l'apologie de la violence. Je pense que cet arrêté est inopportun en cette période préélectorale. Son retrait serait la bonne idée. »
Je crois que la réflexion de notre ami là n'est pas mauvaise. Il faut toujours prendre compte de ça pour que on se mette en route d'une manière à réussir. Parce que vous ne devez pas vous engager pour échouer.
Professeur Kojon Dukuma, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de l'Ituri.
Maître Mokilimungonoti David, à partir des Mahdi à province de l'Ituri, nous estimons que cet arrêté du ministre Lambert Mende est une violation de la liberté de la presse. La définition des médias en ligne, cette définition conformément à cet arrêté, est une définition large et floue. Il y a obscurité dans la définition, ce qui peut amener les gens à ne pas connaître précisément c'est quoi les médias en ligne. Nous estimons que cet arrêté doit être annulé purement et simplement.
Professeur.
Oui, la définition, j'ai vu qu'elle est très extensive. Et pour tout ce qui a été dit de pertinent ici, il y a un problème de connaissance de l'architecture de l'Internet lui-même. En fait, l'Internet, il est transfrontière. Et la territorialité physique, vous ne pouvez pas l'avoir. Et même que la mesure en termes d'effet, ça va faire que les gens, soit ils vont pseudonymiser leur publication, soit ils vont le délocaliser et faire ce qu'on appelle une activité dirigée vers la RDC. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui, même dans la presse, en ligne, des serveurs qui sont délocalisés. C'est que, avant de revenir vraiment sur la question, techniquement, c'est qu'on devrait faire, on devrait créer une sorte de responsabilité en cascade où la RDC contrôle les fournisseurs d'accès à Internet, il contrôle ses propres hébergeurs, et en ce moment-là, on peut atteindre les éditeurs. Parce que avec la particularité d'Internet aujourd'hui, le Web 2.0, c'est que tout le monde peut produire son information comme il veut, d'où il veut, et le diriger vers une destination quelconque. Donc, la territorialisation de ces mesures va faire en sorte que les gens vont continuer à le faire par des contournements extérieurs. Bon, maintenant, à partir de là, il faut aussi préciser que cet arrêté quand même a un mérite quelconque. Ça veut dire quand vous lisez l'article 9 de la loi 0, la loi de 96/002, il est rappelé ceci, en matière de communication audiovisuelle, la liberté est le principe et l'interdiction l'exception, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes mœurs. Qu'est-ce que le ministre a fait ? Il n'a pas interdit les services de médias en ligne. Il a simplement demandé que ces médias puissent déclarer préalablement. Ce qui se passe à l'étranger, la solution, elle est technique, comme M. Alkitengel disait. Quel est le dispositif technique que vous mettez derrière pour faire respecter cette loi ? Ce qui se passe à l'étranger, c'est qu'il y a un standard ouvert en ligne. Parce que vous avez des médias en ligne qui n'ont pas besoin de remplir la paperasse. Et vous avez des médias en ligne qui émettent simplement sur Internet. Vous avez également des éditeurs qui sont des blogueurs, d'autres qui ont des sites Internet. Il y en a encore certains qui vont même publier, comme Congo Mikili, excusez-moi, qui fait de la vidéo en ligne. Ce n'est pas de l'écrit. Alors, on leur demande de s'enregistrer à un standard ouvert qui est contrôlé par le ministère de l'Information. L'utilité, c'est quoi ? Ce n'est pas de faire une police politique, mais l'utilité, c'est par exemple pour les droits de réponse. Si vous n'avez pas un journaliste, un cyberjournaliste qui est identifié et qui a un droit de réponse à pouvoir donner, comment vous faites ? Si vous voulez avoir une responsabilité éditoriale en cas de délit de presse et que vous n'avez pas d'adresse physique derrière le label du site internet, comment vous faites ? C'est ça l'utilité de la loi. L'utilité ou de la réglementation n'est pas de pouvoir traquer des journalistes ou tout le reste. Encore que les journalistes qui ont pignon sur rue pourront, par leur notoriété, revenir à la mesure en se disant j'ai une signature comme le président Tshilunde, il a une signature, il dit bon je voudrais pas que je sois sanctionné ou ceci. Mais toutes les personnes qui vont signer en se pseudonymisant, vous ne les atteignez pas. Et puis, il sera assez difficile. Ce qu'il faut, c'est l'architecture de l'Internet, c'est qu'on fait, quand il y a un contenu désobligeant, on demande à l'éditeur qui s'est enregistré sur un standard ouvert de l'enlever ou de l'effacer, ou à défaut pour lui de le faire, on contacte son hébergeur pour que celui-ci le supprime, merci, comme on le fait avec Facebook et les autres.
Merci. Nous y reviendrons dans la dernière partie de cette émission. Alkitenge, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka.
Yange Mbalia Germain, étudiant en première licence à l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka. À mon avis, je pense que cette décision est inopportune et liberticide, comme pensent les autres. Car l'avenir de la démocratie au Congo n'appartient pas à ceux-là qui prétendent être innocents, purs et sans tâche, mais à ceux qui sauront se convertir à cette nouvelle exigence. Qui est encore aujourd'hui ce gouvernement qui restreint la liberté d'expression et d'opinion à ses peuples. La pluralité de la presse est le signe d'une démocratie vivante. Chez nous, personne ne peut la faire une lettre morte. Imaginez qu'à l'approche des élections, la population a une pensée uniforme est une utopie absolue. La diversité des opinions doit pouvoir se refléter dans la diversité des médias, même s'ils sont hostiles au pouvoir.
Al-Kitinga.
Je suis très respectueux de l'opinion de notre frère Germain Yangemba. Il est très structuré dans ses idées, hein. C'est très impressionnant pour un jeune étudiant. Et il relève ce que j'ai dit dès le départ. Le moment est éminemment politique.
Et donc mal choisi.
Mal choisi pour ce genre d'exercice. Et deuxièmement, il y a énormément d'erreurs dans la mise en place. Et le fait de ne l'avoir pas fait de manière participative et expliquée relève tout de suite les grands maillons de la suspicion. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Elle peut être une bonne mesure, mais elle sera très mal accueillie et elle est très mal accueillie comme vous vous en rendez bien compte. Et le fait de ne l'avoir pas expliqué, le fait de ne l'avoir pas fait avec la presse est une faute lourde parce que, vous savez, une réglementation, elle est faite pour impacter un certain nombre de personnes, il est bon de les avoir à bord pour éviter les difficultés de mise en application.
Alors le professeur Ndoukouma l'a dit, bon, avec les médias sociaux, les médias en ligne, les réseaux sociaux, tout le monde peut produire son information, la diriger vers une cible. Et aujourd'hui, on a le phénomène de fake news, c'est assez important, Al-Kitenge.
Bien sûr, ça n'affecte pas que la République démocratique du Congo, les fake news sont à travers le monde. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle e-reputation management, la gestion de la réputation en ligne. C'est toute une science et toute une technologie. Pour faire face à ce genre de choses, vous devez être préparé et vous devez avoir ce qu'on appelle un management de votre présence en ligne. Ça veut dire qu'en fait, toutes les organisations sérieuses, et ceux compris des gouvernements, doivent avoir des gestionnaires de communautés en ligne pour être en mesure de noyer la mauvaise information et donner la bonne information. L'absence de la bonne information laisse la place à la spéculation.
On se rend compte qu'en ce qui concerne par exemple les fake news, en France, la régulation suscite un débat houleux et on n'en est pas encore venu à bout.
La seule chose que les Français essaient d'éviter, c'est que on touche à la liberté. Et les gens disent, gérez ce qui doit être géré, mais ne touchez pas à la liberté. La liberté est quelque chose de fondamental. Et si on commence à toucher à la liberté, je crois que les communautés vont exploser. Je pense qu'il est important de pouvoir laisser la richesse d'une communauté s'exprimer. Il n'y a rien de mortel dans l'expression. Après, c'est ce qu'on en fait qui compte. Et si vous êtes une communauté qui ne s'écoute même pas, ça pose problème.
John Odiane Dissiro dit, dans un État responsable, il est tout à fait normal que le gouvernement puisse réglementer certaines choses, mais l'arrêté du ministre n'est pas non seulement liberticide, mais freine le développement des nouvelles technologies. À mon avis, les autorités congolaises doivent prêcher par un bon exemple. Ce n'est pas seulement les médias en ligne qui portent atteinte au droit à l'image et au droit à la vie privée, quand certaines chaînes de télévision font à longueur des journées, plusieurs chaînes à longueur de journée au vu et au su des autorités, Al-Kitenge.
Oui, je pense que la presse en général, et je l'ai dit plusieurs fois au président Kasonga, ne me semble pas à la hauteur des tâches que nous attendons. Vous savez, les médias sont en fait un instrument public d'éducation, de formation, mais surtout de surveillance de la cité. C'est des baromètres de la communauté. Ils ont un sens de responsabilité théoriquement très élevé. Et très malheureusement, on observe des fois une certaine négligence au niveau des acteurs du secteur des médias, et nous pouvons leur en vouloir pour un certain nombre de choses, que ce soit dans la presse écrite ou dans à la télévision, à la radio. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'il y a des journalistes qui se méconduisent sur Internet. Mais ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de dire... nous devrons être en mesure d'assumer une communication responsable, mais en toute liberté. Ça doit être argument contre argument, et pas argument contre pouvoir, et surtout lorsque le pouvoir est exercé pour des raisons qui ne sont pas nécessairement de l'intérêt général. Il est important, je le dis de manière répétée, que nous nous en rendions compte que nous sommes dans une nation qui est indéfinie par définition, et donc chaque décision que l'on prend, il faut savoir qu'elle peut se retourner contre vous. Je le disais ici tout à l'heure, on est au pouvoir aujourd'hui, on doit être préparé à être à l'opposition demain. Et donc toutes les dispositions que l'on prend aujourd'hui, il faut se rendre compte que si on les prend, ça peut nous frapper demain. Donc il faudrait donc être en mesure de mettre en place des dispositions qui sont totalement impersonnelles.
Joseph Bukaka Songa-Chilunde, président de l'UNPC, quelle solution peut-on envisager en ce qui concerne la régulation des médias de manière générale et en ligne, en particulier sans restreindre la liberté, évidemment?
Personnellement, je dis que d'abord, jusque-là, on travaille dans l'illégal, parce que les médias en ligne n'existent nulle part dans la législation congolaise. C'est un nouveau phénomène que nous n'avons pas connu avant, jusqu'en 1996. Alors, moi je pense que ce qu'on peut faire, je crois que nous avons une grande réunion demain, et je préfère que je vous réponde à cette question lorsque nous allons nous retrouver, mais moi personnellement, si j'ai une opinion à donner, c'est que il faut que le ministre à son retour, il réunisse toutes les parties pour qu'on échange afin de voir la faisabilité de son arrêté, parce que ça ne vaudra pas la peine d'avoir publié ou d'avoir réglementé un secteur dont on ne sait pas appliquer ce qui est dedans.
Bon, si jamais il ne vous écoute pas, parce qu'on a vu certaines décisions dans ce pays progresser et puis être appliquées malgré les contestations.
Ben, s'il ne nous écoute pas, en ce moment-là, nous allons trouver d'autres solutions.
Voilà. Professeur Kodjon Dukuma, il faut parler déjà des solutions. Vous parliez de l'architecture de l'Internet. Quelles autres solutions peut-on envisager sans évidemment restreindre la liberté?
Oui, déjà, on parle de plus en plus de régulation réflexive. C'est que le ministre a fait une régulation sectorielle, mais il est allé un peu de manière transversale sur le secteur de la publicité, du droit à l'image, de la vie privée, qui ne sont pas par prédilection ses domaines à lui, parce que la publicité c'est du commerce, c'est de l'économie. Et déjà ça, la régulation réflexive doit traduire les aspirations du secteur, et notamment des gens qui ont leurs activités dans ce secteur et qui en connaissent les contraintes, les défis et les opportunités. Et il est toujours bon de pouvoir écouter ces personnes. Est-ce que l'ouvrage peut-il encore être remis sur le métier? C'est ça la question. Elle ne me concerne pas directement. Mais par rapport à ce que le président Chilunde dit, il faut faire attention. La Constitution, article 24, dit que la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par radio et la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication sont garantis. Donc dans l'approche de législation, on peut, à côté de la presse écrite et de la presse audiovisuelle, mentionner dans la loi la presse en ligne, tout autant qu'on n'est pas obligé de le faire, comme en France, où on a assimilé la presse en ligne dans sa régulation à la presse audiovisuelle. Une petite chose sur la publicité, c'est qu'il se passe la question de la vie privée. Ce n'est pas simplement quand on parle des gens. Il y a plein de données personnelles que Google, que tous ces opérateurs qui sont derrière les médias en ligne récupèrent pour profiler les gens. C'est nettement plus dangereux que toute autre chose.
Alki Tengue, parmi les solutions, vous avez, en début de votre intervention, déploré le fait que l'État congolais n'avait pas développé des aptitudes pour, par exemple, interagir.
Oui, pour deux bonnes raisons. La première, c'est l'autorité de régulation de téléphones et postes qui n'est pas suffisamment équipée pour faire son travail. Aujourd'hui, tout le monde sait, par exemple, que les services de renseignement sont plus équipés que l'autorité de régulation. C'est quelque chose d'assez anormal. L'autorité de régulation devait être au service, y compris des services de renseignement. Mais en fait, ça, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est de dire, à partir du moment où le numérique nous affecte au quotidien, l'État devrait avoir toute une stratégie qui touche à l'économie numérique, à la vie sociale numérique et à toute la politique numérique. Et aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas de dispositif au sein du gouvernement et au sein de l'État qui gère ce genre de choses.
Et parmi les solutions, de manière durable, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
De manière durable, il faudrait que l'État devienne un véritable acteur de l'Internet. L'État n'a pas le choix. Je l'ai dit plusieurs fois à l'occasion de l'interruption du signal. L'État fait tout ce qu'il fait parce que lui-même n'est pas un grand consommateur d'Internet. Donc il est important que, dans la démarche de la nation, l'État s'imprègne du numérique qui est devenu le plus grand véhicule de l'économie. Et donc, de mon point de vue, il est important que l'État devienne un acteur pour qu'il comprenne viablement ce qui se passe et ne pas poser des actes gauches.
Et cela passe par l'informatisation de tous les services, notamment.
Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Aujourd'hui, si vous mettez le citoyen au centre de toute activité, vous vous rendez bien compte que le citoyen est connecté, vous désirez le voir, vous devez être en mesure de vous-même d'être équipé pour être en mesure d'interférer avec lui. Aujourd'hui, il n'y a pas meilleure manière d'interférer avec le citoyen et de lui donner du service public qu'en passant par Internet. C'est un véritable outil. Et j'invite beaucoup mon État, j'invite beaucoup ma nation, j'invite beaucoup ma patrie à pouvoir se numériser.
Voilà, Joseph Boukar Kassonga-Chilonde, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire finalement ?
Ben, ce que j'ai à dire, c'est que tout a été dit ici. Il faut que nous puissions tirer ce qui est de positif dans l'arrêté du ministre. Et en même temps, là où nous estimons qu'il y a des choses à dire, demain nous allons nous retrouver, nous allons nous mettre ensemble, et puis nous allons faire quelques recommandations et au retour du ministre, nous allons chercher à le rencontrer pour qu'on puisse échanger en tant que compatriotes, pour qu'on trouve un juste milieu par rapport à son arrêté et à nos revendications.
Voilà, professeur Kodjo Ndokouma, bon, dans la suite, comment entrevoir finalement les relations entre l'État, les médias en ligne, la technologie, elle avance vite, elle ne nous attend pas.
Oui, mais déjà, c'est la transformation de l'État à l'ère numérique. Il y a des transformations polymorphes. Il faut même que la philosophie du gouvernant puisse changer. Ça veut dire, avant, l'État, c'était la conception pyramidale. J'impose, vous suivez. Mais aujourd'hui, l'État, il est régulateur et l'État, il est partenaire. Donc, quand on doit prendre des mesures qui ont un impact sur le secteur, il vaut mieux communiquer. Parce que déjà, je peux dire que ce qu'il y a de positif, on ne demande pas aux gens de fermer leur site, mais on leur demande simplement une déclaration préalable. Là où ça peut déranger, c'est la question de publicité sur laquelle ils n'ont aucun contrôle parce que ce sont les géants de l'Internet qui font la publicité, qui ne passent que sur les espaces où ils sont hébergés, ces services de médias en ligne.
Merci. Alki Tengue, conclusion.
Je crois que le numérique est une opportunité et pas une difficulté. Et ce serait très bien que tous les secteurs de la vie nationale se numérisent, se transforment. Et il est important que la presse en profite en toute responsabilité.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que je recevais Joseph Boukar Kassonga-Chilonde, président de l'Union nationale de la presse, la RDC, UNPC en sigle, professeur Kodjo Ndokouma, docteur en droit du numérique de la Sorbonne, professeur de droit du commerce électronique et Alki Tengue, stratège et analyste économique. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Mise en onde, Willem Lungamba. Supervision, Pelé Kipela Mondo, réalisation. réalisation d'Ona Madimba, assisté de Mimi Ngumba Mulongo, présentation et coordination, Alain Rong Mouchiche, merci de votre attention, au revoir.